les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo tous les dimanches à 13h, le mardi à 23h et aujourd'hui Rosendo reçoit Sylvie Bosque.
Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire et cette fois-ci je reçois la photographe Sylvie Bosque. Sylvie Bosque qui accumule depuis une quinzaine d'années une expérience très riche dans la réalisation de la photographie artistique. Je me permets de l'appeler artistique parce que il y a aussi un autre côté que c'est la photographie sur commande, qui pourrait être artistique aussi. Donc, je suis accompagné aussi par Lysiane.
Bonjour, Rosendo.
Bonjour, Lysiane. Et bonjour, Sylvie.
Bonjour, Rosendo. Bonjour, Lysiane.
Alors, cette petite présentation, en réalité, va être complétée avec ta participation, non,
absolument,
Sylvie?
Oui. Oui. Avec plaisir.
Donc, et je sais que depuis plus de 15 ans, quand même, tu fais de la photographie professionnelle. On pourrait dire comme ça.
Alors, 15 ans de photo passion, ensuite photo professionnelle plutôt 5 ans puisque je me suis installée il y a 5 ans de ça. J'ai profité du statut d'auto-entrepreneur pour franchir le pas de l'entreprise. Mais sinon, la photo, oui, c'est une passion depuis de nombreuses années.
Nombreuses années. Alors, comment s'est née cette passion ou cette émotion de la photographie?
Le goût de l'image, hein, tout simplement, de promenade, de rencontres avec des gens, voilà, avec un appareil photo en bandoulière, et petit à petit aussi la possibilité de faire des reportages photos, mais pour moi, vraiment, voilà, à titre personnel. Et donc petit à petit, j'ai fait des expositions de ce que je faisais, mais très modestement. J'ai vu que le public appréciait, donc j'ai continué. Et donc la photo de scène de vie a été mon premier amour, on va dire. Et puis j'ai eu la possibilité de faire des photos de concerts, toujours pareil à titre de spectatrice, hein, avec la possibilité de faire quelques photos. Et je me suis rendu compte que c'était un univers qui m'attirait énormément.
Sylvie, si on peut remonter un peu à la source ou les contextes qui a favorisé ces choix de la passion, est-ce que tu pourras nous raconter un petit peu sur ta famille ou sur ton enfance? Est-ce que déjà tu avais un approche sur l'image ou comment est-ce que c'est venu? Je sais que tu viens d'expliquer qu'il y a eu des rencontres, des balades, la démocratisation aussi de l'appareil numérique, la facilité de prendre des images, mais la décision de le prendre comme métier ou la source, est-ce que a-t-il eu une personne ou plusieurs personnes qui t'ont aiguillé, te dit bon, c'est ça qu'il faut que tu fasses?
En fait, j'ai cru en mes rêves. Hein. J'avais ce rêve-là. Bon, effectivement, quand j'étais enfant, bon, j'avais pas d'appareil photo à ma disposition, mais j'aimais l'image. Hein. Je sais que j'aimais l'image de la télé. Alors j'ai connu un petit peu de noir et blanc. Je suis pas très très vieille, mais j'ai connu un petit peu la télé à noir et blanc. Je me souviens de certains films en noir et blanc notamment, et donc l'amour de cette image-là, en fait, de l'image en noir et blanc. Ça a été la première vision photographique que j'ai eu peut-être incrustée dans ma tête. Et puis ensuite, petit à petit, donc bon, il y a une expérience aussi de vie. Donc le parcours qu'on a tous, étudiants, de jeunes travailleurs, donc on se forge une expérience. Et puis, mais on garde en soi certainement cette passion-là. Moi, je l'avais mis en sommeil pendant des années. Et puis, à un moment donné de ma vie, je me suis dit, pourquoi pas réaliser ton rêve?
Donc, mis à part les rêves, excusez-moi d'être coupé, oui. Mis à part les rêves, et c'est ta fascination pour l'image noir et blanc, est-ce qu'a-t-il eu une formation, une initiation, je ne sais pas, au laboratoire, aux recherches, sur la composition, sur la prise de vue?
Alors ça, non, enfin, j'ai pas fait d'école de photographie. Je suis autodidacte. Par contre, je suis des stages de formation de photo. Donc j'ai fait ça il y a un peu plus de 5 ans aux côtés de Michel Pagès, qui est un artiste photographe qui m'a aiguillé, qui m'a donné confiance aussi à mon travail. Alors donc avec lui j'ai beaucoup appris. Et ensuite je fais des stages de formation à Arles, donc les rencontres internationales photographiques de Arles, qui sont une mine de rencontres photographiques, et puis stage de formation extraordinaire, puisqu'on a des maîtres de stage professionnels, donc qui nous donnent leur regard sur notre travail. Il faut savoir que dans ce métier, il faut savoir se remettre en question tout le temps. On est heureux du travail qu'on fait, mais il faut aussi le confronter à un œil professionnel, à des gens qui ont cette expérience-là.
Donc, grâce à ton expérience de formation autodidacte, de formation aussi dans les cadres structurés d'un stage, ou bien par ton expérience empresariale aussi, et j'aimerais que tu puisses donner un avis sur la formation académique qui se fait en dehors de ton parcours, je veux dire les écoles de photographie. Et est-ce que tu as un aperçu, même si tu n'as pas mis les pieds dans ces écoles, est-ce que tu as eu des échos, tu as eu des références? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus?
Disons qu'on m'a toujours dit que la technique, on pouvait l'apprendre n'importe quand. Par contre, avoir l'œil, ça, on l'apprend pas, on l'a ou on l'a pas. Donc, bien évidemment, si on a la possibilité de faire des études de photographie, j'ai souvent de jeunes gens qui viennent me voir pour se renseigner sur justement des écoles de photographie. Et bien évidemment, s'ils ont la possibilité de le faire, il faut le faire, hein, bien sûr. Après, souvent, ce sont des investissements assez importants financiers, parce que ce sont des écoles souvent privées. Mais après, il n'empêche que même sans faire d'école, on peut arriver à faire ce métier. Par contre, il faut beaucoup, beaucoup travailler. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a un appareil photo dans les mains, et même un appareil photo, un réflexe, comme je peux l'avoir moi, qu'on est photographe. C'est pas ça la photo. La photo, c'est du travail. C'est de la passion, certes, mais c'est du travail.
Eh bien, dans ce cadre-là, la photo... Au départ de la présentation que je t'ai faite, la photo artistique, est-ce que crois-tu que la photo artistique, la photo qui remet en cause, est conjugable aussi, elle peut se marier avec une commande? Je veux dire, tu as une commande pour faire un spectacle ou pour faire un concert, ou pour couvrir les images des concerts. Est-ce que tu peux te permettre de donner une vision artistique, une remise en cause sur l'image, ou quelque chose qui puisse marquer ta signature en disant, voilà, c'est une photo digne de Sylvie Bosque.
Mmh. En fait, c'est ce que je recherche. Hein. C'est-à-dire que même sur un mariage, lorsque j'ai une commande de photos de reportage mariage à faire, donc je fais mon travail, mais je cherche le petit plus, qui fera que, effectivement, si un jour on arrive à regarder une photo et à se dire, ah ben, c'est Sylvie Bosque qui a fait ça, c'est mon œil, là, effectivement, j'aurai atteint ce que je recherche. Voilà. Mais non, c'est ce que je fais. J'essaie de faire constamment sur notamment les concerts, de personnaliser mon travail sur un côté artistique. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, les artistes me commandent une couverture photo. Ils essaient de... ils aimeraient personnaliser leur présentation de scène, et donc de par mon travail, j'arrive à maintenant personnaliser leur spectacle.
Oui, mais étant donné que les clients, celui qui te paye, étant donné que quelque part il faut faire plaisir, est-ce que c'est peut-être plus que tu dois donner? Tu ne crois pas que c'est parfois incompatible avec une recherche personnelle?
C'est pas évident, ça c'est clair. C'est pour ça que souvent je parle avec les gens et je demande à faire un entretien avec eux, hein, que ça soit pour des clients ou pour des artistes. On en parle. Au moins j'ai leur vision des choses. Je leur présente la mienne et souvent on arrive à trouver une entente.
Et je te pose aussi ta question un peu pour me remettre moi-même en cause. C'est pas une émission sur Rosendoli, c'est une émission sur Sylvie. Mais je profite, je donne une pierre à deux coups parce que je n'arrive pas à concilier ces deux-là. Je te l'avoue franchement. Je plaide coupable là-dessus. Étant donné que moi, je reçois des commandes pour animer des mariages et croquer les gens. Mais une fois qu'ils m'appellent, après, ils ne me rappellent plus. Pourquoi? Parce que dans les commentaires que je mets ou dans les croquis que je fais, bon, je ne cherche pas nécessairement à leur faire plaisir, je cherche à me faire plaisir moi-même, non? Et du coup, ben, ils me rappellent plus. Ou sinon, c'est qui me rappelle, ils sont un peu masochistes quand même, parce qu'ils risquent de vexer leur invité. Un jour, on m'a dit, ben, et tant pis pour eux, et ceci, c'est là. Bon. Mais c'est une petite minorité, donc, dans ces cadres-là, oui, j'accepte, je vais. Ouais. Mais, je vais apprendre comment tu fais, hein, parce que.
En fait, il faut aussi que je pense à l'avenir. C'est-à-dire, bon, on parle, voilà, de mariage. Mm-hmm. La touche personnelle que je vais mettre sur un reportage mariage, il faut qu'elle plaise, parce qu'elle va être vue de tout l'ensemble des invités. Et au milieu de ces invités, il y a toujours des gens qui veulent se marier, des jeunes couples. Et justement, pour moi, ça va être une sorte de promotion, de montrer mon travail, donc, de ce premier mariage, pour peut-être, faire un second mariage du fait que ces photos auront plu. Donc c'est oui, il faut à la fois faire le travail qu'on nous demande, mais à la fois le personnaliser pour qu'il plaise.
Personnaliser.
Du coup, moi,
oui.
J'ai une question. Est-ce que ton travail artistique détaché de toute commande est très différent de ce que tu fais en commande?
Oui. Je le fais même pour moi parce que j'ai envie aussi de faire autre chose. Je n'aime pas faire toujours la même chose, hein. Et puis enfin, en termes de photos, on ne peut pas faire la même chose, c'est pas possible. Mais c'est vrai que le côté artistique me permet, moi, de m'exprimer. La série des gueules, hein, que j'ai présentée justement lors des festivals des crépuscules, hein, voilà, en septembre dernier chez Alexis,
oui.
Voilà, que je remercie de m'avoir accueilli. Voilà, on en a parlé avec Alexis. Effectivement, on a choisi cette série parce que c'était très personnel. C'est une série que j'ai démarrée justement au mon premier stage de formation à Arles. Ça a été mon premier sujet. Donc d'aller rencontrer des gens, de les prendre, de prendre des portraits de ces gens-là, croisés dans la rue complètement au hasard, et puis de faire un portrait, un échange avec eux.
D'accord. Donc le travail de commande est vraiment un consensus. En fait, c'est un travail professionnel.
C'est un consensus. Oui, exactement, c'est ça. Essayer de faire un travail, d'écouter le client,
Faire plaisir quand même.
Voilà. Mais en même temps que moi, j'arrive à l'exprimer. Mmh. Mais souvent, et le site internet que j'ai mis en place me permet justement de demander à mon client d'aller voir mon travail avant de mettre en place une collaboration. Voir si ça correspond à ce que je sais faire.
Face à face, j'ai peur du temps qui passe. Même nos reflets ne se fassent plus d'effet. Et seul, je ne suis rien quand je suis autant, quand je suis lointain. Juste passer les seuils pour nous sentir sauvés. Et dehors on s'expose aux coups échymoses. Y'a pas de vie en rose. Éclaire-moi. Qui croit qu'on s'habitue à cette clé rouillée d'un cœur qui n'ouvre plus.
D'écouter Éclaire-moi, un extrait de l'album Là où s'en va la mer de Patrousse. Hein. Donc c'est un artiste que j'ai choisi aujourd'hui. C'est un artiste qui a beaucoup, beaucoup de talent. Vous pouvez retrouver toutes ses coordonnées sur son Facebook. Donc Pat Roussin, c'est un jeune homme qui aurait la possibilité de faire de très très belles scènes, donc j'en appelle aux organisateurs de festivals et à des responsables de scènes, donc n'hésitez pas à le contacter.
Comment tu l'as rencontré, ces jeunes chanteurs?
En fait, j'ai fait la couverture photo d'un album de Mumu dans la Luna, qui est montalbanaise. Donc peut-être voilà que nos auditeurs connaissent. Patrousse s'est occupé de leur album au niveau graphique. Mais à côté de ça, c'est un artiste aussi à part entière. Je suis tombée sur sa musique et elle tourne en boucle à la maison. Et il a plusieurs donc morceaux en présentation. Et là, donc en janvier 2014, son album sort. Donc, n'hésitez pas à aller sur son site ou sur le mien.
Pat Rousse, ouais, c'est son nom d'artiste.
Ouais, oui, voilà, exactement. Oui.
Et puisqu'on parle de lui, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il pense de tes photos, Pat Rousse. Oui.
Alors, ce qui est étrange, c'est que l'album qui va sortir, on a trouvé des similitudes dans des photos que j'ai faites ces deux derniers mois. Notamment, j'ai fait une petite série sur la mer du fait d'un reportage photo que j'ai fait dans le sud de la France. Et une photo aussi, donc j'ai choisi Éclaire-moi, et d'une parce que je l'aime beaucoup. Et de deux, j'ai fait un reportage photo sur la compagnie Kapchanka, donc un spectacle qui s'appelle Fuji. C'est le festival Derrière le Hublot qu'il a présenté en septembre dernier à Salle La Source. Donc spectacle magnifique, je vous conseille aussi d'aller voir si vous avez l'occasion. Et parmi toute la série de photos que j'ai fait pour cette compagnie, il y a une photo d'un artiste qui prend une allumette et qui éclaire son visage. Et donc j'ai mis cette photo moi sur Facebook. Patrousse est tombé dessus et en fait on a fait le lien mais tous les deux sans le savoir. Et du coup j'ai mis ce morceau-là sur cette photo-là.
Donc le choix éclaire-moi est tout à fait significatif.
Absolument. Oui, et plein de symboles voilà, oui. Pour tout le monde.
Merci Sylvie pour ces choix, pour nous faire partager ta musique.
Avec plaisir.
Et donc c'est à moi maintenant de parler de ta photo, une photo que tu as choisie. C'est une photo noir et blanc prise devant un bâtiment Spar, c'est une petite boutique Spar. Il y a une dame dedans, une dame très âgée, et tu as fait un cadrage presque symétrique parce que la porte principale de Spar se trouve au milieu, les personnages en premier plan, qui s'adresse avec, on peut imaginer même les pas longs de l'âge et l'éloignement. Et je pense que c'est une photo qui a beaucoup, beaucoup d'émotions, comme tu aimes le souligner pour ta passion, car ces modèles nous tournent les dents, mais en s'éloignant, comme si c'était un peu prémonitoire vis-à-vis de ce qui arrive à ces boutiques, mais aussi à ces êtres humains. Donc,
le titre peut-être, Rosendo.
Le titre de la photo, c'est Mamie Spar. Mais je sais pas si c'est Spar Mami ou Mami Spar.
Non, c'est oui c'est ça, Mami Spar.
Oui. Donc la signification est double, non? Autant pour ces lieux de la campagne, ces lieux de contact qui sont délaissés, et en même temps cette personne qui s'éloigne de nous. J'ai cru comprendre aussi que 6 mois après avoir pris la photo, c'est ton modèle s'est éteint aussi, s'éloigné définitivement.
Il est décédé. Ouais.
Oui. Donc maintenant c'est à ton tour de m'éclairer, éclaire-moi et plus sur cette photo que je viens de faire une petite approche.
Oui, cette photo, elle a beaucoup de valeur pour moi. Tout d'abord parce que c'est une des premières que j'ai faites hein, pour une exposition. Donc une des premières que j'ai qui faisait partie d'une série qui s'appelait Les gens de dos. Celle-ci en particulier, parce qu'effectivement, son histoire est assez intéressante. Donc pour la faire courte, je me promenais dans un village au Lotouin et j'étais à la recherche d'un sujet à photographier. Donc je passe devant cette petite épicerie qui était à l'époque encore ouverte, c'était en 2008. Et cette mamie donc m'a vue et a cru que j'étais perdue. Donc elle s'approche de moi me posant la question, je lui dis non, je la remercie. Je voulais la prendre comme ça moi de face hein, devant sa petite épicerie et puis j'ai pas osé. Elle s'est retournée, elle est partie et puis j'ai déclenché. J'ai pas calculé, j'ai fait juste ma mise au point, j'ai déclenché et donc est sortie cette photo. Donc je l'ai mise de côté et un an après j'ai fait ma présentation donc des gens de dos à Limogne donc tout près de ce petit village Laurière hein, dans le Lot et là les personnes ont découvert cette photo lors de l'exposition et se sont rendu compte que c'était une personne qu'ils connaissaient. Et c'est une personne qui était du village. Hein. Donc cette personne s'appelait Élise, et c'était donc l'épicière du village. Et donc déjà j'ai mis un nom sur son visage. Donc déjà ça m'a beaucoup touchée. Et une personne m'a expliqué que elle était décédée. Et a priori elle est décédée 6 mois après la photo. Donc ça m'a beaucoup touchée hein, d'avoir pris cet instant de vie. Donc effectivement, tu parlais de cette dame qui partait, et effectivement, elle est partie. Et suite à ça, tout est parti, puisque son épicerie a fermé, et tout a été décroché, l'enseigne a été décrochée, et tout a fermé. Voilà.
Est-ce que, si on doit parler des questions des droits, je m'éloigne un petit peu du côté artistique, mais comment on peut passer des questions de droit. Comment tu consultes à cette personne une fois que tu l'as prise des dos dans cette collection et, parce que c'est important pour nos auditeurs savoir comment ça se passe au niveau des droits.
Oui, oui, ça c'est important. Les droits à l'image, hein. D'ailleurs, c'est un petit peu compliqué pour nous maintenant pour travailler, pour nous photographes. Alors là, en l'occurrence, la personne est de dos. Donc on ne voit pas son visage, donc il n'y a pas de souci. D'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, ma première exposition s'appelait Les gens de dos, c'est pas pour rien. J'ai fait une exposition de personnes à qui je n'ai pas demandé d'autorisation parce que tout simplement j'avais peur d'aller voir ces gens pour demander l'autorisation de les exposer. Et en fait, c'est ce que j'ai appris à Arles quelques temps après. Donc mon maître de stage Laurence Leblanc m'a dit maintenant ça suffit, tu vas aller les voir et tu vas leur parler. Et du coup j'ai les gueules, c'est le contraire absolu de ce que j'ai fait, c'est-à-dire que non seulement je suis allée voir ces gens et je les ai pris de face, mais de très très près. Tout ça en fait c'est une sorte de thérapie, c'est d'aller les voir les gens, de leur parler, d'oser. Voilà, chose que j'avais pas fait à cette époque. Et donc concernant voilà cette photo-là, le droit là, il y a pas de souci.
Je reviens à la question artistique. Si tu as pris la photo, est-ce que ultérieurement tu la recadres, est-ce que tu enlèves certaines choses, comment tu te prends pour que cette photo obéisse à ta recherche?
Alors, toujours pareil. Lorsque j'ai démarré, quand on n'est pas sûr de soi, on prend la photo, mais on sait très bien qu'on aura un logiciel photo pour nous aider. Donc bon, là, mis à part le noir et blanc, parce que on ne prend jamais de photos en noir et blanc avec l'appareil photo. Le noir et blanc, c'est un traitement, c'est une couleur aussi, quoi. Voilà. Donc là, mes spars, je l'ai traité en noir et blanc. Mais c'est tout. Il n'y a pas de recadrage. Et maintenant, avec toutes mes quelques années d'expérience, je fais en sorte de ne pas toucher mes photos. C'est-à-dire, à part peut-être ajouter un petit peu de contraste ou de luminosité quand on a besoin, surtout en milieu concert, où quelquefois les lumières sont pas très très heureuses. Là, je me permets de faire quelques modifications. Mais je pars du principe que lorsque je fais ma photo, notamment concernant le cadrage, je n'y touche plus.
Oui, mais maintenant aussi, la technique a évolué. Parce qu'avant Nadar, avant Duano, même Willy Ronis, ils attendaient les moments pour déclencher. Et tandis que maintenant, on mitraille, on fait plusieurs prises de vue et après on choisit.
Ouais, ben ça c'est notre challenge, c'est justement de pas mitrailler. Et puis, enfin, il faut savoir aussi que, ok, on mitraille, mais derrière il y a le traitement image. Et quand vous passez, allez, une journée devant votre ordinateur à trier 1500 photos, mes amis photographes professionnels qui m'écouteront comprendront ce que je veux dire.
Oui. Je pense que le vrai travail, même sur un reportage pour photo pour un mariage, par exemple, des choses comme ça, pour une commande, je pense que la qualité du photographe se reconnaît au nombre de photos. Je pense que s'il n'y en a moins que 1500,
absolument. Après,
une question de choix. Et là, vraiment la question du regard photographique, du coup, est en jeu ici, je pense.
Complètement. Après, quand on est sur une émotion, voilà, tu parles de mariage, Lisiane. Y a des moments, on est obligé de faire 4 photos parce qu'en fait, il s'est passé une chose. Et cette chose-là, je ne le verrai que devant mon ordinateur lors du traitement image. Le fameux regard, par exemple, entre deux mariés. Moi, j'ai eu un instant qui a duré 10 secondes et je vais trouver la photo lors du traitement. Et j'aurais fait 4 photos.
D'accord.
Effectivement, ça donne quand même, c'est assez confortable faire du travail en numérique.
Moi, j'avais une question par rapport à ta série, donc Les gens de dos. Comment tu les as exposés? Est-ce que c'est des grands formats? Voilà, on a parlé du traitement noir et blanc, mais voilà, le format des photos. Est-ce que voilà, c'est des petites photos, des grandes photos?
Oui.
Tu les imprimes comment? Voilà, comment tu les as exposés?
Alors, donc il y a donc 5 ans de ça, je faisais des formats 30-40. Encadré avec un pass, voilà. En fait, petit à petit, au fur et à mesure justement de mes rencontres aussi professionnelles, que ça soit photographique, que aussi au niveau des impressions, parce que c'est hyper important l'impression sur une photo. Et ça, je le confie à des professionnels,
d'accord,
à des gens, un studio qui est à l'île de Ré, donc je leur fais faire mes tirages photos, ou bien je fais travailler aussi des photographes qui sont sur Villefranche, de Rouergue.
D'accord.
Mais je confie cette mission à des photographes parce que je veux voir mon travail.
Oui, tu tires toujours les photos en 30-40 parce qu'en fait le choix artistique, il est là aussi dans le format et la mise en scène.
Absolument.
De l'image.
Complètement. Oui, tout à fait. Là, c'est pareil, c'est avec l'expérience et les univers de photos aussi. C'est-à-dire que là, bon, les gens de dos, c'était du 30-40 parce que il me semblait que ça leur allait bien. Là, au cœur du blues, donc la dernière série photo que j'ai exposée, là, ce sont des plus grands formats, donc les photos sont passées en 50-70. Donc un cadre 50-70, parce qu'en fait je capte l'émotion de l'artiste. Donc c'est souvent des portraits ou alors des prises de vue de d'artistes en train de jouer de leur instrument ou bien de chanter, mais j'essaie de capter leur émotion. Donc j'ai décidé de les agrandir un petit peu plus pour que le public s'immerge dans cette émotion.
D'accord. Elles sont sous cadre, ces photos ?
Oui, toujours sous cadre.
Toujours sous cadre,
par
sous vitre,
mesure de sécurité.
D'accord,
ouais, okay. Ouais. Parce que j'ai tenté sans vitre, hein, et c'est difficile. Et puis, ce sont des photos aussi qui voyagent beaucoup. Là, cette année, j'ai la grande chance de faire une exposition à Biarritz. Donc, je sais que ce sont des photos qu'il va falloir conditionner et protéger pour le voyage. Voilà.
Pour revenir à la question de la personnalisation, tu viens de citer que pour les travaux des concerts, tu fais un zoom, tu fais un approche et tu fais un agrandissement du format. D'accord? Et tout à l'heure, tu parlais de ta recherche sur une espèce de signature, des griffes, des styles. Nous avons la proximité. Est-ce que tu as recherché ou est-ce que tu es en train de rechercher autre chose à part la proximité des zooms? Je veux dire, par exemple, mettre une petite mouche qui se balade sur chaque photo, des sortes qui disent « Ah, la petite mouche, c'est le symbole de Sylvie ». Un autre exemple, que ça me vient comme ça à l'état brut, une petite bougie pour représenter la lumière. Mmh. Non, je ne sais pas, n'importe quoi qui puisse ou flouter une zone, ou je ne sais pas. Et
oui, quel est ton style en fait.
Quel est ton style, oui, parce que le grand défi que vous avez, les photographes, le grand défi, c'est justement cette prolixité des images, et de sorte qu'après on se voit inondé, on ne sait pas qui est qui.
Hein. Complètement. Même nous, les photographes, c'est vrai que. Justement, on essaie de se démarquer
alors,
de tout ça.
Alors, tu en es où, alors?
Moi, je travaille mon cadrage. Parce qu'on m'a eu dit aussi, j'ai la grande chance d'être entourée de photographes professionnels qui regardent aussi mon travail et je les en remercie. Et qui m'apportent leurs connaissances. Et je crois que le cadrage, déjà, c'est une chose qui m'intéresse. C'est-à-dire, tu parlais de proximité, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire que plutôt que de zoomer, bon, j'ai un tel objectif parce qu'il y a certaines conditions, quand on se trouve devant une scène qui fait 2 mètres de haut et qu'on doit photographier l'artiste et moi je suis pas spécialement très grande, on est obligé d'aller au téléobjectif. Mais quand je le peux, parce qu'il y a des scènes qui s'y prêtent, je travaille autrement. Et là, quand j'ai la possibilité de pouvoir naviguer devant la scène, c'est là où j'essaie de personnaliser ou de m'approcher de l'artiste ou essayer de faire le petit plus qui fera que peut-être un jour on reconnaîtra ma patte.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song
keeps Georgia on my mind.
Georgia on my
mind. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Voilà, c'était Georgia on my mind. C'est une chanson qui est de Ray Charles, mais que j'ai entendue lors de l'European Blues Challenge que j'ai couvert pour le magazine Zikazik. Je me souviens d'une interprétation de Matt Guigou des Mountain Men qui fut, enfin que je n'oublierai jamais. C'est-à-dire qu'on était, plusieurs photographes donc qui travaillaient sur le festival. On était donc tous en train de faire des photos et lorsque Matt a commencé à chanter la chanson, on s'est tous arrêtés de photographier et on a écouté. Et ça, c'est aussi des choses importantes à dire, hein. C'est que au-delà de la photographie, il y a l'amour de la musique, hein. et l'univers du blues est un univers fabuleux. D'ailleurs, c'est aussi grâce à ça que j'en suis là actuellement. C'est grâce à cet univers-là qui m'est donné aussi de pouvoir m'exprimer avec la photographie. Voilà, donc un petit clin d'œil à mes amis photographes, Alain Yo, Bruno Migliano et tous ceux qui étaient sur l'European Blues Challenge.
C'est quand même significatif que tu as choisi Ray Charles pour Éclaire-moi. On dirait que c'est une coïncidence, parce que Éclaire-moi, c'était le premier titre,
oui,
des Pâtes Roses. Il a maintenant Pâtes Roses.
Pâtes Roses, pardon. Il va être content.
Merci. Et là, tu choisis un superbe chanteur aveugle.
Oui.
Et pour une photographe, en plus.
Oui, c'est vrai. Oui, oui. Ben, tu vois, tu me mets le dos dessus parce que c'était pas voulu. Mais oui, mais peut-être le besoin de mettre une image sur les sentiments. Je crois que c'est ça. Hein. C'est tout simplement ça.
Mais en continuant avec la séquence de notre émission, c'est à ton tour, Sylvie Bosque, photographe, de nous présenter une image. Et je pense que tu as choisi Willy Ronis, un superbe photographe.
Absolument.
Surtout qu'il a été connu tard, non, dans les années 80, malgré
oui,
qu'il
ouais,
avait
ouais.
fait
tout
avant.
Fait.
Oui, ouais, mais ouais. Tu vas nous en parler mieux que nous. Et donc, c'est
non, c'est un photographe qui m'a beaucoup plu de par sa composition, de par ses scènes de vie. Bon, bien sûr, il y a le noir et blanc, et qui m'a beaucoup touchée. Donc, ça ressemble aussi un peu à du Doineau. Bon, tout le monde connaît Robert Doineau. Donc, effectivement, moi aussi, j'aime beaucoup son travail. Mais Willy Ronis, je suis tombée dessus juste au moment où je commençais à moi m'installer en tant que photographe en fait. Donc il y a 4-5 ans, et donc j'ai commencé à feuilleter un petit peu les livres à son sujet, et j'ai découvert son travail et j'ai trouvé en fait la sensibilité que j'avais au travers de ses coups d'œil. Et donc là, j'ai choisi une photo qui s'appelle Seul au monde, qui est extrait du livre Derrière l'objectif de Willy Ronis, que je conseille à tout le monde pour ces fêtes de fin d'année. Si vous ne savez pas quoi offrir à vos proches, c'est un merveilleux livre avec toutes les photos de cet artiste et qui l'accompagne de quelques textes.
Justement, pour revenir à la cécité, nos auditeurs sont aveugles vis-à-vis de l'image que nous avons devant nous, parce
absolument.
Que c'est le langage de la radio, donc c'est à toi de pouvoir les décrire, cette image, et après je t'invite à lire les textes qui l'accompagnent.
Bien sûr. Alors, il s'agit d'une photo lors d'un concert. Willy Ronis est monté à l'étage 1, il est sur un balcon. Alors, pour les auditeurs de Montalbanais qui connaissent le théâtre Olympe de Gouges, c'est un petit peu cet univers-là. D'ailleurs, pour avoir fait des photos lors du festival à l'Orchante cette année, je suis allée faire des photos de Messia. Et j'étais au balcon aussi, et donc cette photo ressemble un petit peu à ça. Vous dominez le public et l'artiste de ces balcons. Et là, Willy Ronis est derrière un couple. Alors je pense que c'est un couple d'amoureux puisqu'ils s'enlacent. Et donc la mise au point est faite sur ce couple d'amoureux qui s'enlacent et derrière on a tout le public et l'artiste en troisième plan dans un flou. Donc il met en avant ce jeune couple qui regarde ce spectacle. Il y a beaucoup d'intimité dans cette photo. J'aime beaucoup cet univers là. Donc je vais peut-être vous lire le petit texte qui accompagne la photo. Un bal du samedi soir dans un petit bourg de sud-ouest de Berlin en 1967. J'ai déjà à mon actif un certain nombre de photographies de danseurs, de près, de loin, et à table, consommant. Je les quitte un moment, en quête d'une quelconque surprise, et me voici au balcon, derrière le seul couple qui s'y est réfugié. Je me sens un peu indiscret, car ils ignorent ma présence. Mais en même temps, incapable d'oublier ce que je fais, un reportage. L'éclairage est très faible. Et, sauf à n'obtenir que des silhouettes indistinctes, je règle mon obturateur sur le dixième de seconde, avec le diaphragme à 1,9, son ouverture maximale. J'ai mis au point sur mes amoureux. Ils seront nets, mais les plans éloignés seront complètement flous. Conséquence positive, le couple flotte de la sorte dans un climat de rêve. Lumière pauvre, grande ouverture, très faible profondeur de champ. Nous déploierons souvent cette agaçante fatalité. Contrainte technique soit, mais en l'occurrence, une bénédiction. Voilà, et ce qui me plaît dans cette conclusion, c'est de... On calcule bien évidemment la technique de notre photo lorsqu'on l'a fait, puisqu'on travaille en manuel. Nos boîtiers sont peut-être hyper sophistiqués, mais on est quand même en manuel. Mais à la fois, on arrive aussi à capter des moments d'émotion, même si elles sont pas parfaites au niveau technique, on arrive à capter des moments d'émotion incroyables. Et je sais que lorsque je rentre, moi, de reportage photo, c'est ce que je recherche dans la découverte de mon traitement image. De me dire, voilà, sur peut-être les 200 photos que j'ai faites, il y en aura une qui va me submerger d'émotions. Même si elle est pas parfaite, même si je me suis loupée sur ma profondeur de champ, elle dégagera quelque chose.
Oui, pardon, excuse-moi de te couper. Finalement, on parlait tout à l'heure, tu demandais à Sylvie de se positionner peut-être par rapport à un enseignement académique dans la façon de faire des images ou des photos. Et visiblement, ce qui te touche dans Willy Rooney, c'est ce qu'il a l'air de mettre en valeur aussi dans ce livre, avec ces textes, c'est justement l'imperfection donc de l'image qui en fait sa qualité finalement. Et j'ai l'impression que tu te retrouves là-dedans.
Absolument. Cette semaine, j'ai fait une séance photo avec une jeune femme et on a découvert son travail ensemble et justement sur les 20 photos qu'il y avait, donc bon, elles étaient... on va dire techniquement à peu près potable, on va dire. Et il y en avait une où je me suis loupée sur ma profondeur de champ. Elle était sur un mouvement. Et pour moi, c'était la plus belle.
C'était la meilleure
photo. Voilà. Je cherche ça aussi parce que peut-être qu'il s'agit aussi peut-être de cette recherche de touches personnelles. Peut-être que je vais, avec l'expérience et l'âge...
maîtriser ses erreurs,
ouais.
Tu penses.
Enfin, maîtriser ses erreurs, les cultiver,
oui,
et peut-être en faire quelque chose de beau.
Hein,
voilà, c'est ça. Plutôt que de dire, ah ben zut, elle est loupée, je la jette. Ah, non, je vais la garder et je vais en faire quelque chose de... Enfin, vous allez peut-être, vous, en la regardant, vous dire, ouais, je ressens quelque chose. Parce que moi, je ressens quelque chose quand je la fais.
À ces sujets, des erreurs ou des choix de ce qu'on considère la meilleure photo, on peut revenir au livre de Derrière l'objectif de Willy Rooney. Et il y a pris pour cette fameuse photo, qui est, je pense, la photo la plus connue de Willy Rooney, c'est Le Nu Provençal, et où apparaît sa femme des dos, nue, Marianne.
Absolument. Oui.
Mais il avait pris 4 photos.
Oui.
Mais il a choisi
une,
la douzième, la deuxième prise.
Ouais.
Et toi, tu aurais choisi laquelle de ces 4-là?
Celle qu'il aurait choisie, celle-là, ouais. La lumière, la gestion de la lumière. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que, quand j'ai démarré, j'étais pas nécessairement sensible. Maintenant, c'est quelque chose qui me marque, la gestion de la lumière. Et même lorsque je regarde des films, on parlait tout à l'heure, Rosendo, des Tonton Flinger qui sont passés il y a pas très longtemps, où je trouve que la lumière, influe sur ce film aussi. mais souvent de ces années-là, hein, les films de ces années-là. Et la lumière est un paramètre important dans mon travail maintenant. J'essaie de justement de faire en sorte qu'au traitement image, je n'ai pas à y toucher, de la restituer comme je la vois. Donc oui, ça fait partie aussi de ce travail-là. Et oui, Willy Ronis l'a géré parfaitement.
Et c'est un peu difficile peut-être de demander des recettes ou des orientations pour choisir une photo, mais avec tes mots, comment tu pourrais définir que c'est une photo réussie?
Une photo qui, pour moi ou pour
toi,
le public,
pour
moi, une photo qui me fait vibrer, une photo qui me donne qui me met la larme à l'œil. Il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu.
Et ça tient à quoi alors?
Oh là là.
Est-ce que tu arrives à saisir ça? Parce qu'à chaque fois, c'est des choses différentes.
C'est difficile. Oui, oui, oui. Ouais. C'est.
La question est difficile. Je suis conscient.
C'est compliqué.
Je sais même pas s'il peut y avoir une réponse.
Ouais, voilà.
Au défi.
Il y aura pas de réponse. Non. Mais après, c'est bon. Je vais prendre l'exemple des photos de concert parce que c'est vrai que c'est un univers que je travaille de plus en plus parce que c'est un univers qui me plaît beaucoup aussi. Et c'est souvent aussi en fonction de l'artiste. Je sais que j'ai eu beaucoup d'émotions. Par exemple, lorsque j'ai fait le traitement image de Beth Hart, le concert de Beth Hart au Cahors Blues Festival 2012. Lorsque j'ai fait mon traitement image, en fait, j'ai réentendu la musique. Parce qu'en fait, cette femme est d'un charisme incroyable, hein, elle dégage beaucoup d'émotions. Et je sais que lorsque j'ai revu ces photos, tout s'est mis en place à ce moment-là.
Du coup, ça tenait là un souvenir personnel.
Oui.
Mais,
ouais.
Toi, quand tu parlais de quelques images qui t'ont fait vibrer, mais donc tu n'as pas vécu le moment.
Non et non. En fait,
mais alors, qu'est-ce qui fait que, enfin, à quoi tu te rattaches dans l'image? Enfin, qu'est-ce qui dans l'image?
Ça sera souvent l'émotion du modèle, hein, de la personne,
parce que c'est, voilà, c'est souvent
c'est aussi des photos de personnes, parce que je pourrais être aussi émue par des paysages.
Oui.
Et c'est vrai que.
Mais souvent c'est des personnes.
Ouais, c'est souvent des scènes,
visages.
C'est des scènes de vie. Ouais.
D'accord.
Je suis très, c'est pour ça qu'Ronis me plaît tant, Douaneau, voilà, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont su mettre en scène.
Donc une pièce vide ou une scène vide,
alors,
te toucherait.
Il faut qu'il y ait un morceau d'humain dedans. J'ai eu vu des photos de
d'espace ou
oui,
enfin,
voilà,
d'espace
de friche urbaine.
Ouais,
je sais que j'ai des collègues qui travaillent la friche urbaine. Quand elle est seule, ça ne m'inspire pas. Par contre, si je vois un peu de vie et de la façon dont on va la mettre en scène aussi ou qu'on va la prendre sans la mettre en scène, ça m'est.
Donc c'est la personne humaine qui va te toucher en fait à un moment donné.
Ouais. Ça, j'avoue que c'est ce qui me plaît le plus. Ouais.
Émotion, c'est un mot-clé pour toi, ouais. Sylvie. Et je voulais te lire une réponse que Willy Ronis a fait quand on lui a posé la même question. Non, et c'est toujours une réponse assez abstraite, non, parce que quand on parle d'émotion, chacun va avoir une émotion particulière. Mais j'aimerais te la soumettre parce qu'après cette réponse, il rajoute une chose qui me semble importante aussi et qui ressemble à ton parcours, c'est-à-dire ce mélange d'émotions, d'humains, mais en même temps de la valeur ajoutée, et qui pourrait être interprétée comme le travail de commande ou comme le travail qui doit être payé. Donc, lui dit, une photo réussie, celle par laquelle je suis communiqué l'émotion qui l'a fait naître. Mais il rajoute, mais avec un plus, c'est à valeur ajoutée, ardemment attendue, jamais assurée. Donc, quelque part, il y a une coïncidence des parcours. Donc, ton choix de Willy Ronis n'est pas...
Peut-être, oui. Après, rien n'est hasard, certainement. Mais oui, tout à fait. Ouais.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, it's this house just ain't no home anytime she goes away.
Ain't No Sunshine de Bill Winter. Donc ça c'est un morceau juste pour le plaisir. C'est mon gros coup de cœur. Voilà.
Bill Winter. Comment tu prononces Bill Winter ou Bill Winter?
Winter. Winter.
Bah je sais pas. Hein.
J'étais pas très très bonne en anglais en fait.
Alors comment tu as découvert cette chanson?
Alors j'ai fait un festival, le Blues in Wonderland à Sérignan en octobre dernier. Donc c'est un festival de blues, superbe festival de blues. Donc j'ai eu la chance de couvrir. Et une des chanteuses, Raissa, l'a interprété divinement, version blues. Et j'en garde un très très bon souvenir. C'est un moment que gravé dans ma mémoire de photographe.
Lorsque tu es ému comme ça, lorsque ça te touche les cordes des plus intimes de Sylvie, est-ce que tu as les réflexes pour prendre l'appareil et photographier ça, ou tu es complètement déboussolé à ce moment-là?
Non, quand ça m'émeut, je tombe l'objectif, quoi. D'ailleurs, mes collègues le voient, en général, quand on est sur des concerts, on est quand même nombreux. Mais maintenant, mes collègues et amis photographes maintenant, quand on voit l'un d'entre nous baisser l'optique, donc mettre l'appareil photo en bandoulière, c'est que là, on se dit, il est touché. Donc, et on fait tout ça. Bon, pas sur les mêmes morceaux, bien sûr, mais il faut faire ça, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est derrière notre objectif, on n'écoute pas spécialement le concert. Bon, sur des grands concerts, on peut se permettre d'arrêter de faire des photos au bout de quelques morceaux et de profiter après du concert, mais souvent voilà, on a quand même un travail à faire, donc on est concentré sur notre image, sur l'image. Donc moi, après je parle personnellement, c'est vrai que j'écoute pas spécialement le concert comme il le faudrait, et c'est pour ça tout à l'heure je parlais de Bessart lorsque j'ai traité mon travail. C'est là où je l'ai réentendu en fait, et souvent je me mets la musique aussi quand je l'ai, je me mets la musique et je traite les photos en même temps, donc voilà, je m'immerge à nouveau.
Tout semble indiquer que dans la communauté des photographes, on partage beaucoup de choses. Il n'y a pas des coups bas, des...
Oh si, certainement.
Comme dans toute profession,
si, si.
Oui.
Mais j'ai la grande chance de côtoyer des gens extraordinaires. Alors au début, ça a été un peu compliqué, même pour moi en tant que femme, parce qu'on n'est pas très nombreuses à faire ce métier.
Ah bon?
Les femmes photographes dans le milieu des concerts. Vous noterez qu'il y a pas trop de, il y en a, et de personnes de qualité. Je pense à Evelyne Balliner, que j'ai rencontrée au Car Blues Festival, qui est une photographe exceptionnelle. Et mais il y a beaucoup de messieurs. Et voilà. Donc quand je suis rentrée dans le groupe de Fred Delforge, le magazine Zikazik, donc il y a bientôt 3 ans, je suis rentrée dans une équipe de messieurs, mais qui m'ont accueillie vraiment très sympathiquement, et on travaille avec beaucoup beaucoup de respect.
Oui, mais pour les concerts, par exemple, il faut avoir un sacré culot quand même pour se mettre devant le public, tourner le dos et cacher pour quelques instants la scène et s'approcher, faire ses réglages, non?
Absolument, oui, oui. Alors, mon arme fatale, c'est être sympa et avoir le sourire. Hein. En général, ça marche. Oui. Non, après, effectivement, il y a des moments où il y a des concerts qui sont très difficiles. Moi, je tente, je veux dire, à part prendre un râteau, me disent non, je tente. Non, mais ça a toujours marché, je touche du bois, mais ça a toujours marché. Et puis, à partir du moment où on est sympa et où on est respectueux, voilà. Il faut être respectueux entre nous, entre photographes, hein, avec le public, bien sûr, mais ça se passe toujours bien en général. On leur fait une petite photo et on a un beau sourire, hein, mais entre nous, non. J'ai rencontré plus que des photographes, mais des amis, et j'en suis.
Peut-être que tu utilises tes grands talents de séductrice. Comme ça, tu appâtes un peu le narcissisme de photographier et du coup, tout se passe bien, non?
Je sais pas, Razendo, je ne sais pas.
Bon, Sylvie, parle-nous un peu de tes projets, soit des expositions, des monoeil qu'on n'a pas beaucoup parlé.
Oui,
et
bien sûr. Ouais,
en sachant qu'on n'a que 3 minutes dernier.
Absolument, donc oui, on va se dépêcher. Oui. Non, en fait, tout pour les personnes qui aimeraient voir mon travail, je vous invite à aller sur mon site internet, donc www.sylvemonoeil.com, et j'ai également une page Facebook où vous tapez monoeil et vous me retrouverez. Donc voilà. Ensuite, j'ai quelques actualités. Donc la semaine prochaine, le 20 décembre, j'ai la grande chance de couvrir un festival de blues à Tournon d'Agenais. Donc c'est Cathy Boyer qui m'invite à venir sur cet événement. Donc c'est un concert de blues et de gospel avec la chanteuse américaine de la Velle. Donc c'est un événement à ne pas louper. Donc ça, ce sera la partie gospel. Puis ensuite, il y aura la partie blues avec donc Cathy et les Vocal Scholars, ainsi que les French Blues Explosion. Donc ça sera lors du festival Blues Station. Et pour celles et ceux qui n'auront pas la chance d'être à Tournon d'Agenais, il y aura le même spectacle le lendemain à Montauban, à la salle Eurythmie.
Le 21 décembre.
Oui, absolument.
Ah, le jour de mon anniversaire.
En plus, bah, écoute, je penserai à toi.
Ok, tu vas être ravi.
Je t'enverrai un petit texto, Rosendo.
Ah, mais je n'ai pas des textes.
Tu n'as pas de téléphone.
Tu peux savoir, moi, ça me suffira.
Je viendrai te faire la bise. Voilà, donc le 21 décembre, vous retrouverez donc ce spectacle de Cathy Boyer, les Vocal Scholars, à la salle Eurythmie à Montauban. Voilà, et pour ma part, j'ai plusieurs expositions qui sont prévues cette année, dont une à Biarritz, donc qui m'a été proposée par la mairie de Biarritz mai et juin prochain, excusez-moi. Et voilà, et donc
parce là, que tu exposes, pardon.
Oui, voilà, oui, j'ai cette grande chance, c'est aussi ma vitrine, ouais. Donc voilà. Et là, la programmation est en train de se préparer.
Oui, mais tu exposes quoi comme travail?
Ça sera au cœur du blues, avec des photos de cette année, pardon, Lysiane. Voilà. Donc, mais bon, toute mon actualité sera sur mon site internet, donc n'hésitez pas.
Merci beaucoup, Sylvie.
Merci à vous.
Merci, Lysiane, et merci aujourd'hui, Florent, dans la technique, aussi. Accompagné par Aurélien.
C'était les rendez-vous de Rosendo. Vous pourrez retrouver le podcast sur cfmradio.fr. Et donc aujourd'hui, il recevait Sylvie Bosque, alias Sylvie B, mon œil.